Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, chers frères, il me semble important que nous comprenions bien l'action du Saint-Esprit. Nous avons vu, donc, dimanche dernier, cette descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Et l'Église, dans ses cérémonies, dans ses sacrements, dans sa liturgie, nous invite à réfléchir sur cette action du Saint-Esprit. Parce qu'elle est primordiale. Vous avez entendu notre Seigneur Jésus-Christ dire à ses apôtres, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Alors, allez enseigner toutes les nations au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à respecter les commandements, mes commandements. » Il y a, vous le savez, depuis que notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre, et depuis qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, il y a une perfection que nous devons rechercher dans la pratique des commandements. Et cette perfection, nous la trouvons dans le programme propre de vie chrétienne que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne, à savoir les béatitudes. Les béatitudes, ce n'est rien d'autre que les commandements, mais pratiqués d'une manière parfaite. Et cette perfection, nous ne pouvons l'atteindre que si le Saint-Esprit agit dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit, la Sainte Église nous en montre l'action intérieure, dans les cérémonies qu'elle a bâties au fil du temps, et en particulier eh bien, dans la messe. Je voudrais m'arrêter, aujourd'hui et la semaine prochaine, sur deux prières qui structurent le canon romain, d'après les liturgies, les études liturgiques, et de manière très juste. C'est ce qu'on appelle les épiclèses. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce mot barbare ? Non, c'est un mot scientifique, c'est un mot très intelligent, qui vient du grec, et qui signifie précisément, c'est une action sur, bien sûr quoi ? Bien, d'abord sur les oblats, c'est-à-dire sur le pain et le vin, enfin j'appelle ça vraiment les oblats pour manifester déjà ce caractère sacré de la victime. Cette épiclèse qui précède la consécration, nous la verrons la fois prochaine. Et puis il y en a une autre, une deuxième épiclèse, c'est une prière qui se situe après la consécration, et qui demande précisément notre sanctification. D'après les liturgistes, les épiclèses, ce sont des prières adressées au Saint-Esprit, précisément. On en vient à cette conclusion en comparant les liturgies entre elles. Parce que vous le savez, la liturgie ne s'est pas développée de manière totalement homogène et d'une façon unique dans l'Église. Donc, on peut comparer avec la documentation qu'on a, qui est assez éparse d'ailleurs, eh bien, les divers rites dans les diverses langues qui nous sont parvenus jusqu'ici. Et on voit qu'il y a une prière qui, en effet, est souvent adressée au Saint-Esprit et qui manifeste l'action du Saint-Esprit, qui réclame, qui supplie pour obtenir cette action du Saint-Esprit. Et cette prière, donc, c'est la prière Supplices te rogamus. Nous vous supplions, Dieu Tout-Puissant. Alors, j'ai précédé le début de cette prière par ces explications. Pourquoi ? Parce que vous constaterez que, dans la rédaction que nous avons dans le canon romain, nous nous adressons au Dieu Tout-Puissant. Il semblerait donc que nous nous adressons plutôt au Père. Enfin, il faut savoir que la messe, c'est un acte qui est tourné vers Dieu le Père, puisque c'est le Christ que nous offrons au Père. Donc, il n'est pas, il est tout à fait raisonnable de penser que Dieu Tout-Puissant désigne en fait la troisième personne de la Sainte Trinité. Et qu'est-ce que nous demandons à ce Dieu Tout-Puissant ? Eh bien, nous lui demandons, premièrement, de faire porter ces offrandes par les mains de votre saint ange, là-haut sur votre autel, en présence de votre divine majesté. J'en discutais avec un prêtre qui trouvait ça assez bizarre, comme symbolique. Qu'est-ce que c'est que cet ange qui vient prendre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, désormais réellement présent, substantiellement présent sur l'autel, pour les monter jusque devant la majesté divine. Et pourtant, si nous y réfléchissons, eh bien, il y a quelque chose qui est parfaitement logique par rapport à ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile. La première chose est de savoir quel est cet ange. Alors, il y a plusieurs interprétations. Certains y voient notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ça peut se comprendre d'ailleurs sur le plan théologique. J'y verrais plutôt l'ange, cet ange qui nous est présenté dans l'Apocalypse, par exemple, et qui, en effet, se présente devant la majesté divine et qui est là présentant l'agneau immolé. Cet ange, il ne peut, et c'est cela qui doit nous arrêter, cet ange ne peut pénétrer jusqu'au plus intime de la Trinité que parce que notre Seigneur Jésus-Christ est remonté au ciel. C'est ça qu'il faut que nous comprenions d'abord. Cet ange, en fait, il suit le parcours de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut présenter au Père le sacrifice du Christ que parce que le Christ est lui-même revenu jusqu'au Père. Et cela nous montre l'importance de l'ascension dans tout le processus de notre sanctification. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous avait dit. Vous savez, il vous est bon que je m'en aille. Même si vous êtes triste parce que je vais partir, il vous est bon que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer l'Esprit-Saint Paraclet. Et là, on comprend. Alors, le deuxième mouvement que nous décrit cette prière. Ce deuxième mouvement qui, vous le remarquerez, est une prière qui vient de notre cœur même. Quand nous recevrons en communion ici à l'autel le corps et le sang infiniment saints de votre Fils, puissions-nous tous être comblés des grâces et des bénédictions du ciel. Ce que nous demandons donc dans cette prière, c'est que l'ange, étant venu auprès de la majesté divine, présenter le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il va redescendre ensuite, au moment de la communion, pour nous faire goûter l'action de l'Esprit-Saint. Il va nous combler de grâce et de bénédiction du ciel. Vous voyez comme la liturgie, elle nous fait vraiment rentrer de plein pied dans cette vie intérieure à laquelle nous sommes appelés. Encore faut-il évidemment lire ces prières attentivement, même pendant la messe, se contenter juste d'une prière comme celle-là, et de la méditer, de réfléchir. Qu'est-ce que cela signifie ? Je suis dans ce mouvement ascendant et descendant. L'ange, il va monte, il présente le sacrifice du Christ au Père éternel et il redescend ensuite pour nous amener quoi donc ? Eh bien les grâces du Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'en recevant notre Seigneur Jésus-Christ dans la communion, eh bien nous sommes rendus participants à l'œuvre du Christ lui-même. Vous voyez pourquoi la vie chrétienne est vraiment un grand mystère. Parce que nous sommes intégrés dans cette vie même de la Trinité. Et c'est la raison pour laquelle, comme je vous le disais tout à l'heure, nous ne pouvons pas envisager la pratique des commandements simplement comme le respect scrupuleux des prescriptions qui sont indiquées dans la loi mosaïque. Mais nous devons aller bien plus loin, nous devons faire en sorte que ces prescriptions nous poussent nous conduisent à vivre véritablement de la vie même de Dieu. Si vous reprenez le sermon sur la montagne, bien vous verrez que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit bien, ne vous contentez pas seulement de ne pas tuer, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas voler, mais soyez doux, soyez pur, soyez pauvre en esprit. Toutes ces vertus que les commandements nous appellent à pratiquer, nous devons les pratiquer, et nous devons les pratiquer sous l'action, sous l'impulsion de l'Esprit-Saint, qui nous est donné vraiment au plus intime de nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle il est vraiment ce moteur de notre vie. Vous voyez que toute notre vie morale, elle est transfigurée, elle est transcendée par cette action intérieure de l'Esprit divin. Nous ne pouvons pas nous contenter simplement de regarder les choses de manière formelle. Certes, quand nous venons à la messe, nous assistons à un rituel. Alors nous sommes habitués au rituel. Nous pouvons même un peu tomber dans la routine, lire les prières. Oui, on les connaît presque par cœur. On s'arrête plus sur les mots, sur ce que cela veut dire. Mais j'aime beaucoup cette prière d'Épiclèse après la consécration, parce que précisément dans son langage symbolique, elle nous fait vraiment rentrer dans la logique de l'œuvre même du Christ, qui est descendu du ciel, qui s'est incarné, qui remonte ensuite auprès de son Père. Et dans ce mouvement-là, eh bien, il nous entraîne avec lui. Nous sommes intégrés à lui de façon à ce que lorsque l'ange monte chercher les grâces divines en raison même du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous croyons véritablement que nous allons être exaucés, que nous allons en effet recevoir, en raison même, encore une fois, de ce sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, les dons du Saint-Esprit. Et ces dons sont surabondants. Il ne s'agit pas seulement pour nous de pratiquer les vertus, mais Dieu va encore nous donner des dons pour nous aider, pour nous fortifier, pour nous faire avancer encore plus vite sur la voie de la perfection. Ce sont les dons du Saint-Esprit qui viennent perfectionner les vertus elles-mêmes. Alors aujourd'hui, en ce dimanche de la Sainte Trinité, où nous sommes appelés à contempler le mystère de la Trinité, nous sommes surtout appelés à louer Dieu dans cette révélation qu'il nous fait, qu'en lui-même, il n'y a pas un être isolé, solitaire, mais un être où la vérité et la charité sont infinies. La vérité, il est important que nous comprenions, si nous voulons être sanctifiés à la mesure de ce que Dieu veut nous donner, il est important que nous comprenions qu'il nous faut nous enraciner dans la foi. Et comme vous le voyez, la foi, ce n'est pas quelque chose que nous élaborons par nous-mêmes. Ce n'est pas seulement ce sentiment de confiance que nous pouvons avoir en Dieu, une espèce de confiance diffuse et pas très déterminée. Non, celui en qui nous croyons, c'est un Dieu qui est en trois personnes. Nous n'avons pas le Dieu des Juifs et des musulmans. Ça, c'est une certitude. Parce que si nous avions le Dieu des Juifs et des musulmans, nous ne pourrions pas être sanctifiés à l'intérieur même de nous-mêmes. Et cela, il faut que nous le comprenions. Vous voyez, il y a un rapport très étroit entre notre vie religieuse, entre notre vie chrétienne, et puis ce grand mystère de la Sainte Trinité, qui est essentiel, fondamental, pour notre vie, tout simplement. Parce que si Dieu n'est pas un en trois personnes, eh bien alors l'action du Saint-Esprit, elle n'est plus possible. Et même plus, la venue du Christ n'est pas la venue du Verbe qui s'incarne. Donc, vous voyez toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Ne nous laissons pas facilement déstabilisés par ces expressions qui sont absolument fausses et qui sont hérétiques et qui vous disent que nous avons le même Dieu que les juifs ou que les musulmans. Nous n'avons pas le même Dieu que les juifs ou les musulmans. C'est bien clair. Parce que notre Dieu est un et trine, tout à la fois. et que cela fait partie de notre vie propre, de notre vie chrétienne. C'est vraiment notre être, notre identité de chrétien qui est en jeu dans cette question. Alors demandons aujourd'hui aux trois personnes de la Sainte Trinité ce que nous demandons en suppliant dans cette épiclèse de communion, à savoir que après avoir vu l'ange monter pour que le sacrifice offert ici sur l'autel soit agréé par le Père, et bien que dans la communion, il puisse redescendre avec une abondance de grâce pour chacun d'entre nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.